Cette saison de Super Green Me est parrainée par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et Maïf, l'assureur militant. Merci à eux pour leur soutien et bonne écoute. Embarquement du train de nuit. Super Green Me, saison 2, épisode 15. Nous sommes à Londres, à la gare de Euston, en train d'embarquer pour un train de nuit, direction l'Écosse. Nous partons avec Mathilde pour une dizaine de jours. On va visiter les Highlands, qui est une région montagneuse de l'Écosse, assez isolée, très naturelle, avec des paysages spectaculaires. Puis ensuite Glasgow et Édimbourg pour finir.
On est en cabine combien ? On a la place pour mettre les valises sous le lit.
Ah, ça y est, ça part.
C'est parti ? Ah oui.
Si je vous raconte ce voyage, c'est pour vous montrer que partir loin, c'est pas synonyme de prendre l'avion. Et c'est aussi pour changer les a priori sur le train de nuit. C'est pas si horrible que ça. Loin de là, même.
La cabine est assez exiguë, on va pas se mentir, mais fonctionnelle. Bien agencée, comme dirait un agent immobilier qui fait visiter un studio à Paris. Donc ouais, c'est assez étroit. Quand on ouvre la porte, à droite, on a deux lits superposés. Parce que ce sont des cabines doubles, ce qui est quand même du coup vachement bien. Tu partages pas avec d'autres personnes, donc ça c'est assez appréciable. Donc nous avons deux lits superposés qui sont franchement assez confortables. Il y a des draps, deux coussins par personne qui sont aussi pas mal. Il y a des prises, il y a un petit lavabo avec de l'eau qui n'est pas potable. Derrière la porte d'entrée, il y a un miroir, ce qui fait qu'on se sent pas vraiment... Moi qui suis claustrophobe, je me sens pas du tout mal. Et il y a le mur qui est tapissé avec un petit tissu en tweed écossais très joli. On a une petite fenêtre avec un petit volet et on avait des petites pochettes dans lesquelles on a un petit masque pour la nuit, deux petites bouteilles d'eau et des boules quies et un petit savon. Le couloir pour accéder aux cabines est vraiment très étroit, ça fait bizarre au début, mais en fait c'est pas... Enfin, un peu comme dans les films, quoi, tu vois, ça fait vraiment ce truc en express, du coup c'est marrant. Et il y a ce wagon-bar qu'on va tester demain matin, mais qui a l'air... Enfin, vraiment, c'est un restaurant. Vraiment, t'as des super belles tables, c'est beau. Et donc, voilà un petit peu ce train de nuit.
Le tour du propriétaire terminé, on se pose sur la banquette du bas. Je me suis dit que ce long voyage, de 11 heures, était propice à faire le point. Un bilan de cette deuxième saison de Super Green Me qui s'achève. Déjà, je réalise que m'être intéressé à la question des rêves, des ambitions, ça m'a fait du bien. Je recommence à avoir des perspectives dans ma vie. Et si, vous aussi, vous vous sentez désemparé, posez-vous. Réfléchissez par quoi vous allez remplacer tout ce à quoi vous allez renoncer dans votre transition. Ou vous avez déjà renoncé si c'est déjà fait. Ensuite, ce qu'on peut retenir de cette quête... c'est qu'énormément de nos imaginaires sont liés à l'enfance. La piscine, la voiture, l'alimentation. Ce qui fait que c'est normal que ce soit difficile de s'en passer. Mais je suis persuadé, en revanche, que quand on est animé par cette volonté de faire sa transition écologique et qu'on est bien entouré, on y arrive petit à petit. Et pour ceux qui, justement, se désintéressent des questions environnementales, le moyen de les faire... basculer, de leur insuffler à leur insu de nouveaux imaginaires, c'est, je crois, la banalisation des comportements vertueux. Il faut rendre normal le fait de voyager en train, de manger des plats sans viande, de faire du vélo, de la marche, ou de prendre les transports en commun en ville, etc. Et, last but not least, en espérant que mon accent s'améliore avec ce voyage, il faut... impérativement repenser notre rapport au temps. Sans ça, c'est impossible d'adopter de nouveaux imaginaires. Prendre le train pour partir en vacances, c'est plus long que l'avion. Trouver une bonne recette végé, Acheter de bons produits pour ensuite les cuisiner, ça prend beaucoup plus de temps que de commander un gros burger ou de se faire un steak haché de la flemme avec des pâtes au beurre. Bref, vous avez saisi l'idée, il faut sortir de la fuite en avant, transport, boulot, dodo, et prendre du temps pour vivre. Ce qui permet aussi de passer de bons moments avec ses proches, du temps de qualité. Elle est là, la clé du bonheur.
Au début de la saison, tu disais que tu avais l'impression de plus avoir de rêves. Là, on est plusieurs mois plus tard. Est-ce que tu as des nouveaux rêves ?
Ouais. Et tu vois, là, ce train de nuit en est l'exemple parfait. C'est-à-dire que il y a une petite excitation. Enfin, tu vois, je le trouve super. Enfin, c'est vachement bien. Le train est très très cool. Il est très joli. On a une petite cabine à deux. C'est marrant. Ça. Enfin, il y a une petite vibe Orient Express. Tu vois, cette nouvelle façon de voyager, c'est la première fois que moi je suis dans un train de nuit. Et franchement, enfin, c'est top, quoi. Enfin, tu penses pas du tout à l'avion une seule fois. C'est pas un voyage au rabais, quoi. C'est une nouvelle façon de se déplacer, de voyager, et c'est bien.
Moi, j'ai remarqué un truc au fur et à mesure de la saison, c'est que j'ai l'impression que ces derniers mois, pendant que t'as abandonné tes rêves, en tout cas que tu les questionnais, tu t'es vachement politisé et t'as aussi pris conscience du rapport de classe en fait qui se joue dans la transition écologique. Et ça, c'est un truc que t'avais pas trop en tête avant. Et je t'ai vu au fur et à mesure des semaines. Commencer à t'intéresser à ça, à prendre conscience de ça. Comment t'as vécu ça ? Enfin, le fait de comprendre que toi, t'avais une transition écologique privilégiée, entre guillemets, par le fait de vivre en ville, par le fait d'avoir un niveau de vie moyen plus, tu vois, et que tout le monde n'avait pas les mêmes possibilités que toi.
Déjà, je me suis rendu compte à quel point l'inégalité sociale, en fait que t'as des rêves climaticides. Parce que si tu nais déjà bien et que t'as toutes les possibilités, c'est quand même beaucoup plus simple, je trouve, de... Enfin, t'as beaucoup plus de marge de manœuvre et t'es quand même beaucoup plus tranquille pour adopter un mode de vie plus soutenable.
Ah, tu trouves que plus c'est riche, plus c'est facile de faire ta transition ?
Bah, oui, parce que...
Parce que t'y as eu accès, en fait.
Parce que t'y as eu accès, ouais. Parce qu'en fait, t'as plus rien à prouver. Or, quelqu'un qui est né dans une classe sociale inférieure, bah, il n'a pas envie de rester avec cette sobriété forcée qui est la pauvreté, en fait. Il veut tout faire pour grimper de classe sociale, et donc s'acheter une grosse bagnole, et s'acheter une grosse maison, et partir en voyage, et le montrer, machin. Donc déjà, il y a ce truc-là qui, moi, fait un peu écho, toute proportion gardée, mais avec mon parcours personnel. Enfin, moi, je me suis construit là-dessus, sur ce truc de me dire, il faut que je passe dans une classe sociale supérieure, etc. Et c'est ce qui fait aussi que, je pense, j'ai eu des rêves climaticides pendant longtemps, quoi. Et maintenant, je suis pas arrivé au niveau de Bernard Arnault, tu vois, mais j'ai un niveau de vie confortable, bah maintenant, c'est plus simple. Tu vois, de me dire, bon bah ok, voilà, stop. En fait, on va arrêter l'ascension qui apporte en plus pas beaucoup plus de plaisir, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que t'as un certain niveau où juste t'es tranquille dans ta vie, alors peut-être que tout le monde n'est pas comme ça et que je suis peut-être naïf, mais bon voilà, une fois que t'as un petit confort, bah ça sert à rien d'avoir plus, quoi. Ça sert à rien d'avoir plus, il faut s'arrêter.
Est-ce que dans tous les rêves dont t'as parlé au début de la saison, il y a un rêve qui est plus dur que les autres à abandonner ou à changer ?
Ouais, je pense que le plus complexe, c'est cette histoire de grosse voiture. Mais,
ah bon ?
Mais pas pour la grosse voiture, en fait. Pour, effectivement, le marqueur de classe sociale. Mais là encore, hein, on revient à des trucs de l'enfance. Hein. Là, je me revois, tu vois, à 3, 4, 5 ans, avec une maman au chômage et un père, tu vois, chauffeur de bus, qui vivait très très loin de Paris, qui vivait très très loin de tout... avec peu de moyens, sans dire que j'ai été Cosette non plus, tu vois, mais moi, l'imaginaire le plus difficile, c'est celui-ci, tu vois. Ça va être de me passer quand même au niveau de la consommation, des achats, de certaines choses qui pourraient montrer que je suis d'une classe sociale supérieure. Ça va être le plus compliqué.
Moi, je pense que le plus dur, c'est le truc du voyage. Mais parce que c'est toujours, enfin moi ça a toujours fait partie de mes rêves de vie et je vois bien que j'arrive à modifier ma façon de voyager et que je prends pas moins de plaisir à voyager là en faisant tout en train et tout. En plus l'Écosse, hein, ça fait partie des trucs dont je rêve. Enfin, donc non, je suis trop contente. Mais en fait je pense que c'est plus l'idée de me dire que je me mets toute seule une limite. Tu vois ce que je veux dire ? C'est plus un truc psychologique de... Je me dis que jamais de ma vie, je vais refaire un long courrier transatlantique. Ça, c'est dur pour moi, de me dire que je renonce pour toujours, tu vois. Et après, l'imaginaire des enfants. Hein. Enfin, moi, je sais que c'est le gros... C'est la grosse question pour moi. Le train s'est arrêté. Pas forcément en mode les enfants c'est pas bien parce que un être humain en plus ça pollue. C'est plus dans quel monde mes enfants vont grandir si j'ai des enfants. Et je pense que c'est vachement le fait d'avoir ma nièce qui a changé ça. Oui, puisque j'ai une nièce qui a 2 ans et demi, enfin bientôt 3 ans, et qui du coup découvre le monde. Et en fait, je me rends compte que elle va pas du tout grandir dans le monde dans lequel moi j'ai grandi. Tu vois, ils habitent à Lyon, quand il y a des pics de chaleur l'été, moi je suis allée la garder, il faisait hyper chaud, il y avait la clim dans l'appart et c'était irrespirable. Du coup, c'est hyper pollué, du coup, elle tousse. Enfin, je me dis, ça me fait peur pour elle en fait. Tu vois. Ça me fait peur pour les gamins en général.
Il est 23h33.
Ça va être le lit. Pardon, c'est pas exprès. C'est pas scripté. Hein. Non, mais ça va être la nuit là, 23h33.
Ouais, ouais, c'est le. Ouais. On va tamiser la lumière et on va se laisser bercer par le roulis du train. Bonne nuit.
À demain.
On n'a pas aussi bien dormi que ce que j'imaginais, mais on vous recommande quand même l'expérience, ne serait-ce que pour le réveil. On boit le café en regardant le soleil qui se lève par la vitre de la cabine, qui éclaire doucement les lacs qui défilent le long des rails et les montagnes enneigées au loin. C'est un moment magique. Nous voilà donc arrivés en Écosse, à Inverness, dans le nord du pays. Au programme, visite de la ville, assez rapide, parce que pour le coup, il n'y a pas grand-chose à voir, faut être honnête. C'est plus un camp de base pour faire des balades. Nous, on en a fait une en bord de mer, accessible en bus, sous un beau soleil. Et puis, après Inverness, direction l'île de Skye. Pour le coup, en train, c'est très compliqué. Ou alors, faut en prendre un jusqu'au pont qui mène à l'île, puis un bus, mais il y en a très peu dans la journée. Et une fois arrivé, t'es limité en termes de mouvement sur l'île. Donc, tout le monde vous dira que louer une voiture est indispensable. Mais nous, on l'a pas fait. Pour des raisons écologiques, un peu. Mais surtout, soyons francs, pour des raisons pratiques. On se sentait pas du tout de conduire à gauche. Qui plus est, sur des petites routes de campagne écossaise, en février. Donc on a fait le choix de prendre un tour, avec un guide et un minibus. Généralement, je suis pas fan de ça, des visites organisées en groupe, mais franchement, on a très bien fait. Richard est un super guide.
Ok, welcome to Skye. Just as we cross over the bridge just ahead of us, have a look down to your left. It's the station. And when I say that it literally is the end of the line, you'll see what I mean.
Et surtout, on a pris ce tour sur 2 jours, ce qui fait qu'on passe une nuit sur l'île et qu'on est en complète autonomie une bonne partie de l'après-midi et la soirée. On voyage en février, c'est la très basse saison, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucun touriste. On a l'île et ses paysages splendides, rien que pour nous. Et notre guide nous a d'ailleurs remercié de venir à cette période. Parce que l'été, apparemment, c'est l'enfer. Les Highlands sont pris d'assaut, et la taille des parkings sur l'île de Skye, sur les points un peu stratégiques, le laisse bien imaginer. Voyager en train, oui, c'est bien, mais respecter ceux qui habitent là, Et les lieux, c'est important aussi.
Sky has changed pretty much beyond all recognition over the last 10 years. It's gone from a small island community with traditional way of life, particularly sort of raising sheep, to a situation these days which is pretty much entirely based on the hospitality tourist trade.
Alors, je vais malheureusement pas vous faire toute une carte sonore de l'île de Skye. Ça reste des vacances pour moi, et j'ai besoin de décrocher, de laisser l'enregistreur au fond de ma valise. Mais j'ai quand même envie de vous faire découvrir mon plus gros coup de cœur. Donc là, on est... Ah, il y a beaucoup de vent. Donc là, on est au Fairy Pools, littéralement les piscines des fées. Et en fait, ce sont des chutes d'eau qui créent en fait des petites piscines naturelles. D'où le nom, et en fait, cette eau, elle coule d'un ancien cratère de volcan qui est assez gigantesque. Mais il n'y a plus que la moitié, en fait, c'est un demi-cercle. Il y a un demi-cercle de cratères. Là, le haut est enneigé. Mais en fait, on voit pas le sommet parce que il y a d'importants nuages blancs qui sont accrochés. Et c'est un endroit, c'est assez mystique. Je comprends le nom. C'est très très beau en tout cas. Et c'est ici que je vous laisse. Dans cet endroit à couper le souffle. J'aurais pas pu rêver d'un lieu aussi magnifique que les Fairy Pools pour clôturer cette saison de Super Green Me. Attention, je vais prononcer une phrase aussi con qu'elle est sincère, mais je me sens minuscule ici. La nature me remet un peu à ma place. C'est un décor vraiment mystique, qui donne envie de le contempler pendant des heures, de pas se soucier du temps, de protéger la nature, protéger ses endroits, protéger le vivant. Et c'est sur ce chemin, celui de la biodiversité, que je veux vous emmener désormais. Alors... À bientôt. Merci à toutes et tous d'avoir écouté cette deuxième saison de Super Green Me, j'espère qu'elle vous a plu. Et merci à toute l'équipe derrière ce podcast pour leur travail formidable. Merci à Mathilde Mélin qui coécrit les épisodes avec moi, merci à Solène Moulin qui compose la musique et réalise les épisodes, à Camille Juzot et Chloé Tavission de Studio Fact Audio à la production, et merci à Aurore Caric, l'illustratrice derrière le visuel de Super Green Me. Je tiens également à remercier mes amis et ma famille qui ont participé au podcast et certains qui m'ont accueilli pour des enregistrements dans le sud de la France, en Bretagne ou en Auvergne. Cette saison n'aurait pas été possible sans le précieux soutien de nos parrains, alors un immense merci à l'ADEME, l'Agence de la Transition écologique, et Maïf, l'assureur militant. Maïf est une entreprise à mission qui a dans ses statuts l'objectif de contribuer à la transition écologique à travers ses activités. Ça passe notamment par l'arrêt des investissements dans les énergies fossiles ou encore par la création d'un dividende écologique. Maïf alloue 10% de son résultat annuel pour le climat, pour ses sociétaires les plus vulnérables et pour des actions de protection de la biodiversité. Alors, on se retrouve dans quelques temps pour une saison 3 de Super Green Me pour en parler justement de la biodiversité.